Bonsoir, frères et sœurs et amis. Voilà, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. C'est ce qui nous importe ce soir, de savoir, comme nous l'avons chanté, que Dieu est là. Parce que c'est lui et lui seul qui peut faire quelque chose. Et nous savons que toutes les fois que nous sommes réunis en son nom, il est là. Et il est là pour nous bénir. Dieu, comme l'a dit souvent notre pasteur, est le plus intéressé pour nous bénir. C'est vrai. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Amen. Je voudrais faire avec vous une deuxième lecture d'un texte qu'on connaît très bien. Jean chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà, comme nous l'avons lu dans cette histoire, il est question d'un homme, Naaman. Cet homme, nous l'avons lu, c'est un chef de l'armée de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était quelqu'un de valeureux, puissant, considéré par le roi et certainement par son peuple. Mais il y a un mais. Cet homme est lépreux. Je voudrais, avant qu'on aille un peu plus loin, je ne sais pas si ici vous connaissez la lèpre. La lèpre en Nouvelle-Calédonie a fait des ravages pendant une période. J'ai vu, j'ai connu des membres de ma tribu qui ont été atteints de la lèpre. Et j'ai vu combien la lèpre, c'est vraiment une maladie honteuse, terrible. C'est une maladie qui attaque la peau et la dépigmente et qui défigure une personne lorsqu'elle est atteinte au visage. On ne la reconnaît plus. Elle rend méconnaissable si bien que lorsqu'on n'a pas vu les gens depuis longtemps, on ne sait pas si c'est la personne ou quand la lèpre a fait vraiment des ravages, il y a comme une perte d'identité, une perte de dignité. La lèpre agit dans les extrémités des doigts et ronge la peau jusqu'à perdre les doigts de la main et des pieds. Elle engourdit les articulations si bien que parfois ils ont des difficultés à saisir, à marcher. Il atteint les nerfs et amène une insensibilité dans le corps. Il peut provoquer la cécité. C'est une maladie honteuse qui provoque de multiples plaies, si bien que les gens qui sont atteints de cette maladie, ils dégagent une odeur de puanteur. Elle isole les gens et les sépare de la société avec les conséquences qui sont plus de vie de famille, plus de vie sociale. Elle met une séparation avec ceux qu'on aime. Elle est répugnante. Chez nous, elle est appelée la maladie impure. L'individu est rejeté de la société, il est marginalisé. En raison du rejet, cette maladie provoque au niveau moral et sociétaire des comportements qu'on a vus ici, l'irritabilité, l'incompréhension, l'antisocial, le rejet des autres, l'agression, la déprime. Elle peut également conduire à la mort, si bien que même dans la mort, les cimetières sont séparés. Cimetière des lépreux et de ceux qui ne le sont pas. Des léproseries ont été créées en Nouvelle-Calédonie pour isoler les malades et tenter de les guérir. Mais la lèpre, on en guérit depuis 1940. Depuis 1940, après la découverte d'un antibiotique qui permet d'être guéri de la lèpre. Dans la Bible, il nous est parlé, comme nous l'avons lu, de la lèpre. Et bien souvent, lorsqu'elle débute, cette lèpre, elle est déclarée par... il va se montrer au sacrificateur, et c'est le sacrificateur qui déclare si c'est la lèpre ou pas. Et la personne est amenée à être mise à l'écart de la société. Les lépreux vivent souvent, on voit dans les Écritures, ensemble, hein, bien que les Juifs et les Israélites, dans la vie normale, ils ne s'apprécient pas, mais on voit souvent des lépreux juifs et samaritains qui sont ensemble. Et souvent, quand ils croisent les gens, ils doivent crier impur pour que les gens se détournent, s'en écartent, etc. Si bien qu'il y a des conséquences morales et sociales dans la vie des gens, de déclarer tout le temps impur, il doit y avoir certainement des conséquences terribles dans la vie des personnes de se sentir rejetées. Les lépreux, ainsi, sont devenus souvent des mendiants. Mais il arrive d'en guérir. Nous voyons cela également dans les évangiles où Jésus va dire aux 10, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient tous guéris. Un seul est revenu, c'est un Samaritain qui a été guéri. La lèpre, pourquoi je vous parlais longuement un peu de la description de la lèpre? Parce que la lèpre est vraiment l'image du péché. Quand on fait le parallèle entre la lèpre et le péché, on réalise que vraiment le péché, c'est une maladie insidieuse. Et la Bible déclare ceci, que tous les hommes, sans exception, sont atteints du péché. Tous, sans exception. Et que du fait du péché, on est séparé de Dieu. Si bien que dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Le fait d'être chassé de la présence de Dieu nous amène à être privés de la présence de Dieu. Et cela a des conséquences dans la vie de tous les hommes. Et ce que nous pouvons voir aujourd'hui autour de nous, sont les conséquences du fait qu'on est séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu, chassé de la présence de Dieu. Et la Bible nous amène à comprendre que le péché nous conduit à rater le but que Dieu s'est fixé pour nous. On est passé à côté du but. Et tant que le péché il est dans la présence de l'homme, tant que le problème du péché il n'est pas réglé, il ratera toujours le but de Dieu. Il ne pourra pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que ce n'est qu'en étant libéré, délivré, guéri du péché, qu'on peut vivre la volonté de Dieu. Le péché nous rend esclaves de nos passions. Pas besoin de dessin pour voir tout ce qui peut se passer autour de nous. Et comme la lèpre, le péché défigure l'être humain. Si bien que parfois on peut se dire, comment de telles horreurs peuvent-ils arriver? Comment un tel homme ou telle femme ou de tels hommes, de telles femmes peuvent-elles faire de telles choses? Horrible, ce sont les conséquences de la présence du péché dans la vie de l'homme. Le péché, c'est la conséquence de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Et je voudrais dire que Dieu ne traite pas à la légère l'histoire du péché. Dieu ne traite pas à la légère le péché. Il a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc forcément, le péché conduit à la mort. Le péché est un acte de rébellion contre Dieu et son autorité. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, Comme pour la lèpre, en 1940, il y a eu un antibiotique qui a permis la guérison. Il y a quand même une bonne nouvelle, et c'est cela que je voulais dire ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'on en guérit du péché depuis plus de 2000 ans. Alléluia. On ne sait pas exactement la date précise, mais ce que je peux dire et déclarer, c'est que le remède est efficace à 100%. Et non seulement ce remède est efficace, mais il est gratuit. Voyez? Il y a des soins ici dont on ne peut avoir accès parce qu'on n'a pas les moyens. Mais le remède en ce qui concerne le péché, il est gratuit. Voilà. On peut venir et gratuitement prendre eh bien, l'antibiotique et être délivré du pouvoir du péché. Parce que le péché, c'est ce qui permet à l'ennemi d'avoir autorité sur nous. Si le diable, il a pouvoir et autorité sur le monde, c'est à cause du péché. Voyez? Et quand on a réglé dans notre vie le problème du péché, eh bien, l'ennemi n'a plus d'autorité sur nous. Alléluia. Romains 3, 23 dit ceci, car tous ont péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, tous ont péché, tous sont privés de la gloire, tous les hommes, mais on peut être gratuitement justifié. Alléluia. Et nous l'avons vu tout à l'heure que Dieu ne traite pas à la légère le problème du péché. Il dit ceci, 6:23, Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, comme s'il fallait insister deux fois sur ce mot, don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le remède guérit non seulement du péché, mais de toutes les conséquences du péché dans notre vie. Alléluia. Voyez-vous, il y a des traitements qui parfois, ça provoque des effets secondaires. Voyez? Mais le traitement de Dieu, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a que des bienfaits dans notre vie. Voyez? On prend des traitements et puis il faut traiter les effets secondaires et puis il faut traiter les effets des effets secondaires, etc. Si bien que à la fin, on traîne avec des pochons de médicaments, etc. On ne sait pas plus trop à quoi ça sert et de quel médicament correspond à quoi, etc. Mais le seul remède contre le péché, c'est Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu a ordonné que cette bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier à tous les hommes sans exception. Alléluia. Il faut que tous les hommes sachent qu'on peut guérir du péché. Il faut que tous les hommes sachent que tout ce qui se passe de mal, de mauvais, d'horrible, de désagréable dans ce monde n'a qu'un seul, sont les conséquences de la présence du péché. Et que quand on a réglé le problème du péché, toutes les conséquences disparaissent. Oui, le remède, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Le remède, c'est la croix. Romains, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 6, il dit, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. L'œuvre de Christ à la croix a pour objectif de détruire le pouvoir et l'autorité, la tyrannie du péché dans la vie de l'homme. Et lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'une famille, lorsqu'une nation, lorsqu'une ville se tourne vers Dieu, alors il y a les choses qui changent. Parce que on est à nouveau renoué, réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et dans ce même chapitre, il précise que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul sur tous les hommes, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Oui, frères et sœurs et amis, la séparation de Dieu avec l'homme, c'est une désobéissance, c'est une rébellion, un rejet de l'autorité de Dieu. Mais c'est ce qui nous permet maintenant d'être réconciliés avec Dieu. C'est Christ qui l'a accompli par son obéissance à aller jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Et lorsque nous entrons dans cette obéissance pour croire et saisir par la foi que Christ est mort pour nos péchés, alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes restaurés dans notre place première, qui est celle d'être auprès de Dieu. Alors la gloire de Dieu se lève sur notre vie. Tout à l'heure, nous avons parlé de Naaman. Naaman, c'est le type de l'homme qui veut chercher par ses propres moyens pour mériter, acheter la guérison, son salut. Je vais tout faire ce qui est agréable. Parce que Naaman veut dire agréable. Je vais tout faire ce qui est agréable pour mériter, pour acheter. Mais nous l'avons lu tout à l'heure. Tout son argent, il est reparti avec. Parce que le salut qui nous vient de Dieu est gratuit. Et ce n'est ni avec de l'or et de l'argent qu'on a été racheté, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Naaman, et je voudrais le souligner, Naaman a reçu ce témoignage par sa servante. C'est ça qui est formidable. Une petite fille, on ne sait pas quel âge elle a, mais elle a été enlevée. Elle est devenue esclave dans la maison de Naaman, mais cette fille, elle est habitée par une foi formidable. Et malgré qu'elle est en captivité, cette jeune fille apporte avec elle la vie. Alléluia. Et son entrée dans cette maison n'est pas le fait du hasard, mais elle est quelque part une conduite, une direction de Dieu. Parce que dans cette maison, il y a un homme qui a peut-être tout, mais pas l'essentiel. Elle dira à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Oui. Béni soit Dieu. Pour les épreuves que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser, parce que quelque part là, il y a une direction de Dieu pour parler et rendre témoignage à quelqu'un qui est dans le besoin et qui a besoin de vivre la délivrance, la guérison. Lorsque Naaman a reçu ce témoignage, et la Bible ne nous dit pas plus, mais pour que Naaman soit convaincu, c'est qu'il y avait là une force dans le message de cette jeune fille. Et non seulement Naaman, mais le roi de Syrie. Voyez? Pour pas dire toute la Syrie est convaincue par le message d'une fille. Alléluia. Qui en plus est en captivité. Elle va amener celui qui est son maître à la restauration et à la guérison. Il serait trop long pour parler de tout ce cheminement de Naaman, mais parce qu'il est allé voir son roi a dit, je vais écrire une lettre au roi d'Israël. Il écrit une lettre dans laquelle le roi, il dit au roi, voilà, quand tu vas recevoir mon serviteur, ben c'est que je te l'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi d'Israël, il reçoit cette lettre, il dit ça, c'est de la provocation. Voyez? Voyez? Alors, je me pose quand même des questions. C'est que Naaman a reçu ce témoignage de la jeune fille et il a cru. Le roi de Syrie a reçu ce témoignage et il a cru. Le roi d'Israël, il est interpellé et il est offusqué. Plus que cela, il n'a pas reconnu. Il n'a pas pensé un seul instant, mais oui. En Israël, on a un Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je m'adresse à chacun d'entre nous. Nous avons un Dieu formidable. Et il faut se souvenir que notre Dieu a tout pouvoir, toute autorité, toute puissance, dans le ciel et sur la terre. Il a vaincu, triomphé à la croix pour nous donner de vivre la victoire. Alléluia. C'est vrai, c'est pas facile tous les jours. Mais nous pouvons puiser en lui la force qui nous est nécessaire, la victoire dont nous avons besoin chaque jour. Alléluia. Oui, bien souvent quand on vient à Dieu, on s'imagine, on prie, on demande et on voudrait que Dieu agisse de telle ou telle manière. On est conditionné parce qu'on a entendu, parce qu'on a vu, etc., etc. Ici, ce que je voudrais également souligner, c'est que je ne sais pas comment Élisée il a entendu que le roi il a déchiré ses vêtements, parce que je me suis dit, entre le temps où Naaman est arrivé chez le roi et le temps où le message va arriver jusqu'à Élisée, c'est que Naaman il a passé du temps en Israël, à Samarie, hein, voilà. Mais il va dire, mais pourquoi est-ce que tu as déchiré ton vêtement? Laisse-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il faut savoir que Élisée veut dire Dieu est sauveur. Alléluia. C'est pas formidable ça quand Dieu nous invite. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je voudrais vraiment vous encourager à venir à cette invitation. Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman, quand il est venu, il s'est dit plein de choses dans sa tête. Mais quand il arrive, c'est juste un messager qui est là. Voyez? Un messager qui est là. Il n'y a même pas quelqu'un pour le recevoir dignement. Lui, un chef militaire considéré dans son pays. Il avait peut-être ses galons sur ses épaules, je ne sais pas. Un habit particulier, mais là, il vient à la bonne porte. Mais là, à la porte, quelqu'un lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair sera pure et tu seras purifié de ta lèpre. Il en prend un coup dans son orgueil. Hein. Et parfois, nous nous imaginons l'intervention de Dieu. Mais Dieu est souverain dans sa manière de faire. C'est plus glorieux encore que ce qu'on peut penser. parce que Dieu fait tout pour sa gloire à lui et à lui seul. Et ce qu'il faut retenir, et je crois, enfin, la Bible ne le dit pas, mais ce que je comprends, c'est que Élisée, en envoyant un messager, c'est afin de montrer à Naaman que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Amen. Et en plus, ce qu'on lui demande, c'est ridicule, insignifiant. Va plonger 7 fois. Pourquoi pas 2 fois ou 5 fois? Non, 7 fois. Mais depuis quand on est purifié de sa lèpre dans une rivière? Il aurait aimé qu'on lui demande certainement de faire quelque chose de difficile. Il est toujours dans sa logique de mériter. Oui. Et nous apprenons, c'est ce que je voudrais, que l'intervention de Dieu n'est pas tributaire de ce qu'on est. Il fait tout pour sa gloire. Amen. Si ce soir, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu le mérites, mais parce qu'il veut te faire grâce. Il veut te faire compassion. Il veut te faire miséricorde. Alléluia. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le prophète qui guérit. C'est Dieu qui est sauveur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère les captifs. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui libère les opprimés, qui guérit les cœurs blessés. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand on obéit, il y a toujours des conséquences. Obéir à Dieu, c'est se mettre à nouveau sous l'autorité de Dieu. Et Naaman, quand on obéit à Dieu, il y a toujours, l'obéissance à Dieu est toujours suivie de l'approbation de Dieu. Il y a là sa grâce, il y a là sa miséricorde qui se manifeste. Naaman, hein, heureusement qu'il y a toujours des bons conseillers. Hein. Ouais, on peut bénir le Seigneur pour ses serviteurs à Naaman, parce qu'ils ont été plus spirituels que, hein, voilà, pour lui dire, mais s'il t'a demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Ben, va, plonge et sois purifié. Eux, ils étaient convaincus, mais pas Naaman. Alléluia. Oui, frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose qui peut se communiquer. L'obéissance, c'est quelque chose qui peut se communiquer et se transmettre. Si bien que la Bible nous dit que Naaman va descendre. Voyez, lui qui est un chef, qui commande des milliers d'hommes, il va s'abaisser pour obéir à Dieu. Et du fait qu'il obéit, la bénédiction suit. Alléluia. Plonger 7 fois. On peut donner plusieurs significations, mais le Jourdain, c'est quand même l'endroit où beaucoup se sont fait baptiser, y compris le Seigneur. Le Jourdain nous parle de l'engagement, descendre dans le fleuve. 7 fois peut nous parler de la persévérance. Oui. Et lorsque Naaman ressort du fleuve, la Bible nous dit que sa peau est comme celle d'un enfant. C'est une renaissance. Quand il y a rencontre avec le Fils de Dieu et acceptation de l'œuvre de la croix, il y a un être nouveau qui prend vie dans notre vie. Alléluia. Et je voudrais terminer ce soir en disant ceci. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec quel besoin es-tu venu? Si c'est un problème de péché, nous l'avons vu et parcouru ce soir. Si c'est une difficulté physique parce que vous êtes malade ou quelque autre ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle grâce pour nous de parler de toi, notre Dieu. Et je crois que, Seigneur, au-delà de ces pensées qui ont été partagées, Tu es celui qui œuvre par ton esprit, parce que c'est toi seul qui peux convaincre les cœurs, notre Dieu. Seigneur, merci, parce que tu as pris sur toi le prix pour notre vie. Et ce qui nous donne aujourd'hui de pouvoir nous réconcilier avec toi. Sois béni, Seigneur. Et même si cela s'est passé il y a 2000 ans et plus, Seigneur, l'œuvre de la croix est toujours aussi efficace aujourd'hui encore. Et nous croyons que, Seigneur, tu es à l'œuvre dans les cœurs. Et je te prie de bénir les cœurs qui ce soir s'ouvrent à ta grâce. Je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que c'est toi qui es l'auteur de la foi. C'est toi qui mènes cette foi vers la perfection. Donne à celui qui ce soir a été à l'écoute de cette parole, de saisir cette parole par la foi, afin qu'il vive la libération, la délivrance, la guérison, l'intervention que toi seul tu peux faire et accomplir dans sa vie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus.